J'y réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'écouter parole aux auditeurs. Près de 1000 prisonniers à travers la RDC, dont 700 à Kinshasa, ont reçu la liberté conditionnelle la semaine dernière sur arrêté du ministre de la Justice. Cette libération conditionnelle n'est accordée qu'aux prisonniers qui ont été condamnés pour des délits des droits communs. Il s'agit entre autres des dossiers d'escroquerie, de vol simple, d'homicide involontaire. Grande a été la joie des uns et des autres qui ont retrouvé la liberté. Cette libération conditionnelle intervient dans les contextes d'un surpeuplement dans les prisons et maisons carcérales à travers le pays, dans lesquels les prisonniers vivent dans des conditions difficiles selon plusieurs rapports et les constats faits après la tournée de la vice-ministre des droits humains. Que pensez-vous de cette décision? Quel pourrait être son impact sur le surpeuplement dans les prisons? Nous en parlons avec Maître Henri Omboloa, qui est président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Titimputu, Nadine Foula, Willem Lungamba sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierre Oyelameji sous la supervision de Nicole Ndata. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Quelques, à peu près 1000 prisonniers ont reçu la liberté conditionnelle la semaine dernière sur arrêté du ministre de la Justice. Nous en parlons dans cette émission. Quel pourrait être l'impact de cette décision dès lors qu'on sait que beaucoup de nos prisons sont surpeuplées et des fois ce qui amène les prisonniers à vivre dans des conditions difficiles selon plusieurs rapports, mais aussi le constat qui a été fait lors de la dernière tournée à travers le pays de la vice-ministre des droits humains, qui s'est rendu compte exactement de ces surpeuplements dans les maisons carcérales et à travers le pays. Que pensez-vous de cette décision et son impact sur effectivement la lutte contre ces surpeuplements? Nous en parlons dans ce studio. Maître Henri Omoloa, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. C'est une ONG qui milite pour les droits de l'homme. Et quand on parle prisonnier, effectivement, cela touche votre secteur d'activité. Et nous parlons de la libération conditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs en introduction sur la liberté ou la libération conditionnelle?
Merci. La libération conditionnelle, c'est une mesure prise par une autorité habilitée. Ici, il s'agit du ministre de la Justice, pour permettre à certaines personnes qui ont été condamnées à recouvrer une liberté conditionnelle, c'est-à-dire que ils sont envoyés en liberté, ils quittent la prison, mais ils doivent tenir compte de certaines conditions. S'ils ne le font pas, ils rentrent encore entre les mains de la justice. C'est pourquoi on parlait de la libération conditionnelle.
Et quelles sont ces conditions pour quelqu'un qui bénéficie de cette libération?
Oui, là c'est important, il faut que les auditeurs puissent le savoir. Pour une personne qui est condamnée, c'est-à-dire que il y a eu des charges, il y a eu des infractions retenues à sa charge, et on considère qu'il a commis des infractions, donc il faut le rééduquer. Alors, pendant le temps qu'il passe à la prison, lorsqu'on trouve qu'il y a un certain amendement dans son chef, il se comporte bien d'abord au sein de la prison, il se comporte bien avec les gens qui viennent de l'extérieur, on se dit, ce monsieur, même s'il sortait de la prison, il ne sera pas dangereux. Et c'est une des conditions, l'amendement. Une autre condition, c'est de trouver que la personne a certains moyens qui lui permettent de vivre normalement, sans pour autant récidiver, commettre d'autres infractions. Et les dispositions morales de la personne. Les dispositions morales, ici nous voyons la moralité de la personne. Donc on voit, on se dit que cette personne mérite d'être à l'extérieur, malgré l'infraction qu'il a eu à commettre, il ne pourra pas troubler l'ordre public, il ne pourra pas commettre d'autres infractions.
Et cela intervient après combien de jours d'incarcération par exemple?
En principe, lorsque nous lisons l'ordonnance de numéro 344 qui régit donc notre système pénitentiaire qui date de 1965, l'article 91 dit tout court, la libération conditionnelle n'est accordée qu'aux condamnés qui ont fait preuve d'amendement. Et au moins, on se dit, dans la pratique, et parce que la libération conditionnelle est combinée aussi avec le code pénal, lorsque une personne a passé un quart de la peine, il y a une commission au sein de la prison qui examine la moralité de la personne, son comportement, son amendement, et cette commission va faire ce qu'on appelle les propositions de libération conditionnelle, qu'on appelle autrement prolico. Et ils transmettent à d'autres autorités, c'est toute une chaîne, tout un maillon, toute une chaîne, pour examiner si on peut accorder cette libération. Donc lorsqu'on a passé un quart de la peine, on peut examiner cette possibilité d'accorder la libération conditionnelle.
Et ici, on a vu, on a dit, n'est accordé à ceux qui étaient condamnés pour des délits des droits communs. On a parlé d'escroquerie, des vols simples, d'homicides involontaires. Cela est dans cette catégorie. On ne voit pas, par exemple, les condamnés militaires, ceux qui sont condamnés, par exemple, pour atteinte à la sûreté de l'État, ceux qui sont condamnés, par exemple, pour d'autres crimes, comme les crimes de violences sexuelles, par exemple. Est-ce qu'ils ne sont pas éligibles à la libération conditionnelle?
C'est une option. Et lorsqu'on a décidé que l'on accorde donc cette libération conditionnelle aux personnes qui ont commis des infractions de droit commun, et on exclut les cas des délits politiques ou encore surtout les problèmes de violences sexuelles, c'est parce que tout simplement on a constaté que ça ne va pas, il y a une exagération des violences sexuelles. C'est ainsi que on se dit dès le départ, nous excluons cette catégorie des personnes qui devront bénéficier, n'est-ce pas, de cette libération conditionnelle. Moi je pense que pour ce qui concerne les cas de violences sexuelles, c'est tout à fait normal. Pendant un temps, il faudrait que la répression soit forte et l'éducation aussi, pour que nous revenions au bon sentiment, que l'on ne commette plus ce genre de crimes. Mais par rapport aux infractions politiques, là, bon, si c'est pas la libération conditionnelle, il y a d'autres mesures, notamment l'amnistie qui peut être prise pour dire non pour les cas.
Et ça, c'est au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État.
C'est le chef de l'État, c'est aussi le Parlement, parce que l'amnistie est accordée par une loi, d'amnistie. Donc c'est au Parlement de décider, comme il y a par exemple des concertations nationales. On se dit, nous avons besoin de la cohésion nationale, nous voulons que ceux-là qui ont été condamnés pour des raisons politiques, on puisse leur accorder une loi d'amnistie. Donc c'est aussi faisable. Voilà.
Merci. Ouais. On pourra voir l'impact de tout cela, parce qu'il y a ce problème de surpeuplement dans nos prisons. Est-ce que si on peut le faire autant de fois, cela peut résoudre les problèmes, d'autant plus qu'on sait que plusieurs fois on a dénoncé que dans nos prisons il y a beaucoup de détenus qui des condamnés. 081 890 6315. Nous avons Galvani qui nous appelle de Mboujmaï et docteur Richard qui est ici à Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Galvani, vous êtes en Mboujimayi au Kasaï Oriental, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous.
Vous avez suivi l'introduction avec notre invité. Nous nous penchons sur la décision, la libération conditionnelle. Que pensez-vous de cela et surtout l'impact que cela peut avoir dans ces efforts qu'on fait pour réduire le nombre de ceux qui surpeuplent nos prisons?
D'accord, merci pour la parole. D'abord, je salue aussi cette libération. Ce que nous trouvons en prison là, les prisons sont presque surpeuplées. Et que parmi les gens qui vivaient même dans ces prisons-là, il y avait certaines personnes qui ont peut-être volé des bananes, du papaye, tout ça. On les arrête, on les met en prison. Et c'était vraiment, les crimes là, c'était pas vraiment des gens qui pouvaient être même en prison. Et moi aussi, j'ai ma tête surtout sur d'abord les prisonniers politiques. Je crois que non, ça va être une personne qui a pu être à cause de ses opinions politiques ou de ses convictions politiques qui a été arrêté. je crois que cette personne-là devait aussi être libérée. Parce que aussi, là, croire que non, homicide involontaire, escroquerie, bon, la personne peut aussi faire semblant de se bien comporter en prison, arriver, et lorsque sa victime verra que non, la personne qu'on avait arrêtée, qui m'avait escroqué, qu'on la voit dehors, et que cette personne essaye un peu de... et que cette personne réagisse, puisse récidiver. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que je pose la question de savoir d'abord quels sont les mécanismes qu'ils ont pris pour que ces gens-là qu'on a libérés ne puissent pas tomber dans le même délit ou de mêmes infractions. Est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi où on les libère seulement comme ça et c'est fini? Mais pour le désengorgement de prison, je crois qu'il n'y a pas seulement cette libération ne suffit pas. On doit aussi construire d'autres prisons. Parce que si vous remarquez, vous allez remarquer avec moi que les anciennes, les prisons qui existent, ce sont des prisons d'anciens temps où on essaie juste peut-être de retaper, de mettre la peinture, mais les infrastructures sont presque archaïques. Et il y a aussi comme certaines personnes, certains prisonniers qui sont là juste peut-être par bonne volonté.
Merci beaucoup Galvani. Vous êtes très inquiet, vous vous demandez si par exemple quelqu'un peut être en prison et il fait semblant d'avoir changé. Et dès lors que la personne est libérée, et c'est fini, hein, il va revêtir sa peau. Et quelle sera l'attitude du plaignant quand il voit que la personne qui était condamnée par exemple pour escroquerie est libérée aujourd'hui? Vous posez la question de savoir quels sont les mécanismes qu'on met en place pour surveiller ceux qui sont libérés d'une manière conditionnelle pour qu'ils ne puissent pas récidiver. Et la solution pour vous aussi, il faudrait résoudre le problème des surpeuplements dans nos prisons, c'est de pouvoir construire d'autres infrastructures à travers le pays. Merci beaucoup Galvani. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous, bonjour à notre invité. Et puis, paix profonde à tous les prisonniers libérés. Nous croyons qu'ils sont devenus de bons citoyens.
Voilà. Et s'il faut, partant de cette décision, dégager aussi d'autres pistes de solutions pour résoudre cette épineuse question de surpeuplement dans nos prisons, quelle est votre proposition?
Oui, avant d'arriver à ça, je dis ceci, je n'ai pas senti la raison de droit pour libérer les prisonniers, comme on a dit, de délit ou de droit commun. J'ai senti que ce sont des mesures humanitaires parce que on veut décongestionner ou désengorger les prisons. C'est comme si on hésite pour punir parce que la punition va tuer, la punition va faire du mal, la punition ou la correction fera du mal. C'est ce que nous voyons des prisonniers libérés avec la tuberculose, avec je ne sais pas quelle autre maladie que je ne peux pas citer ici. Ils sont sortis, c'est-à-dire les prisonniers ont été abîmés. C'est pourquoi on a eu pitié d'eux, on les a fait sortir. Ça c'est un. Deuxièmement, à qui revient la responsabilité de la prise en charge? C'est bien de libérer, mais ce sont des citoyens qu'on a libérés. Ce sont des tuberculeux qu'on a libérés. Ce sont des gens qui sont abîmés biologiquement. À qui revient cette responsabilité? C'est bien de décongestionner. Troisièmement, parce qu'il faut prendre des orientations. Je crois... nous avons suivi avec vous des grands débats sur la gestion des provinces. C'est comme si dans les provinces il n'y a que scandale sur scandale en matière de finances. Le dernier gouverneur qui a été élu à l'Équateur a trouvé un hécatombe financier grave. Et dans sa province, il n'y a pas aussi de prison. Qu'est-ce que les hommes politiques font avec l'argent du peuple qu'ils gèrent par rapport, par exemple, à la correction des citoyens de mauvaise conduite? C'est ça encore le grand problème. Donc, pour moi, c'est une mesure humanitaire parce qu'on a trouvé que les prisons sont en train d'abîmer le citoyen. Et puis, je pose encore une autre question. Quelles sont les matières de rééducation qu'on donne aux prisonniers? Quelles sont ces matières? Pour que nous sachions, en sortant, il est vraiment rééduqué. Voilà ma modeste contribution.
Merci, docteur Richard. Trois problématiques. D'abord, vous pensez, vous, que le fait qu'on puisse libérer de manière conditionnelle, c'est peut-être plus humanitaire qu'est juridique, parce que beaucoup de prisonniers vivent dans des conditions peut-être difficiles. Et puis, ça pose un problème de la prise en charge au niveau de la société. Quand quelqu'un est libéré, on sait comment il a vécu en prison, qui va s'occuper de lui sur le plan médical, sur le plan de nourriture et tout cela. Et puis, vous souhaitez qu'au niveau du pouvoir public, qu'on puisse se pencher sur ces problèmes de construction de maisons carcérales à travers le pays, mais aussi il se pose un problème de savoir quand les prisonniers sont là, comment sont-ils rééduqués, quelles sont les matières qui entrent en ligne de compte de leur rééducation. Voilà autant de préoccupations qu'on va aborder avec notre invité. Il est temps d'écouter Simon qui est à Matadi dans la province de Bas-Congo. Bonjour Simon.
Et bonjour mon cher ami et bonjour à tous les auditeurs aussi à l'université. En fait, nous sommes très contents à Matadi lorsque nous avons appris cette nouvelle. Mais ce que nous voulons simplement dire, il ne faut pas que cela soit de manière sporadique ou bien selon le bon vouloir de Y, on désencombre la prison. Mais ça doit être montré, ainsi mis en place lorsqu'il y a proximité ou il y a encombrement, le système fonctionne pour désengorger les prisons afin que milliers soient tenus. Parce que l'article 16 de la Constitution, nous risquerons toujours de les violer, puisque à notre bon sens, les prisons ne sont pas des endroits de torture, mais sont des centres de rééducation. Mais lorsque nous vivons tel qu'ici à Matadi, quand vous allez notre prison, le fait que je pas à une capacité de 100 ou 50 personnes. Mais on déborde plus de 700, 800 personnes. Quand vous y allez aujourd'hui, tout le monde est à tête égale. Il n'y a pas de système de désinfectation. On ne désinfecte pas. Les conditions hygiéniques sont vraiment... Même les animaux ne peuvent pas vivre comme ça. Ça, ça devient une torture. Et nous violons la justice de notre constitution, même... La loi internationale de la torture pour laquelle notre pays est signataire. Mm-hmm. Donc, voilà un peu ça. Donc, il faut qu'on mette un système. Dès qu'il y a une on libère systématiquement. Que ça ne soit pas un bon vouloir d'imbriquer X ou Y, mais ça doit être établi comme cela pour éviter de torturer et qu'un jour la CPI puisse nous en vouloir. Parce qu'avec cette présence des organisations internationales des droits des droits humains, nous sommes parfois foutus. Les rapports qu'ils font par rapport à tout ça, ça n'enchante pas, ça n'augure pas une bonne...
Merci.
Témoignage de notre nation.
Merci beaucoup Simon. Vous êtes à Matadi. Vous souhaitez que la libération conditionnelle ne soit pas une mesure sporadique, mais que ça soit inscrit dans la durée. Chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a surpeuplement au niveau des prisons, qu'on puisse avoir ça comme un système établi, qu'à chaque période, qu'on puisse libérer des personnes pour permettre de dégager les prisons, mais aussi qu'on se penche sur les prisons et les conditions de vie de ceux qui y habitent. Merci beaucoup. Nous avons Yumba qui nous appelle des Kalemi au Katanga. Bonjour Yumba.
Oui, bonjour la radio.
Vous avez suivi les uns et les autres pour vous. Quelles sont les mesures d'accompagnement pour permettre à ce que le surpeuplement résoudre la question des surpeuplements au-delà de ce qui a été fait dans la libération conditionnelle de certains prisonniers?
Ah oui, là c'est bien, vraiment, j'appuie cette idée. Parce que parfois, de notre, par exemple, la Kalemi ici sur place, nous avons notre prison centrale de Kalemi. Vraiment, il y a tant de monde. Le prison, notre prison ne répond pas vraiment aux normes des prisons. Il y a tant de monde. Il y a même des cas de mort, des gens qui sont morts, manquent des soins, et notre prison n'est pas bien entretenue. Vraiment, pour ça, moi, je félicite vraiment. C'est une idée à appuyer.
Merci beaucoup. Vous soutenez la libération conditionnelle. C'est une idée qu'il faut beaucoup soutenir, ça, parce que cela permet qu'on puisse résoudre le problème des surpeuplements dans nos prisons. Nous allons terminer cette première partie d'auditeurs avec Jean-Pierre qui est ici à Kinshasa. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, bonjour Pierrot Lamézier, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
On vous écoute. Beaucoup d'amis pensent qu'au-delà du fait qu'on ait libéré les prisonniers, il faut inscrire cela dans la durée, mais aussi accompagner cela par la construction de nouvelles prisons pour résoudre cette épineuse question de surpeuplement. On vous écoute Jean-Pierre.
Ah oui, moi, à ma personne, moi, je veux que la libération aujourd'hui ne soit pas limitée. Parce que quand nous voyons les conditions carcérales dans notre pays, c'est déplorable. Vous voyez, au Kasaï oriental, précisément dans ma province d'origine, tu vois, à Miabi, à mon territoire, il n'y a pas de prison. Nous arrivons à Zouakabe Kamanga, il n'y a pas de prison. Les gens qui sont arrêtés là, ils sont vite transférés dans la prison centrale de Bujimaï. Et il y aura à ce moment-là l'engouement de la population qui sera carcérée dans la prison. Et pour revenir à cela, on doit aussi tenir compte des arrestations. Il y a des arrestations arbitraires. On peut aujourd'hui arrêter une personne, les transférer directement en prison, sans pour autant qu'ils sachent de quoi ils sont arrêtés, de quoi il s'agit. Il doit être transféré en prison. Et ensuite, il y a aussi le magistrat, il y a aussi un nombre limité de magistrats qui doivent siéger aussi à beaucoup de problèmes. Vous verrez dans une comté où il y a plus de 5000 personnes, vous verrez qu'il n'y a pas de magistrat. Peut-être il peut y en avoir un magistrat. Cela pose toujours des problèmes. Le ministre doit aussi songer à beaucoup créer aussi de prisons, parce que le prison qu'on a ne suffit pas.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà. Merci, Jean-Pierre.
Il faut aussi songer à créer
de nouvelles prisons
pour prévenir cette question.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous êtes ici à Kinshasa. Je retiens qu'il faudrait qu'on puisse avoir des prisons au moins dans les territoires, dans plusieurs territoires. Parce que le problème, c'est que quand on arrête quelqu'un et qu'on n'a pas le moyen de pouvoir le garder là où il est condamné, on est obligé de l'envoyer en Bujuma et à Kananga, à Kinshasa. Ce qui fait que la population carcérale dans les centres urbains augmente avec les prisonniers qui viennent de territoires de l'arrière-pays. Mais au-delà de tout, il faut aussi affecter assez de magistrats, parce qu'il se pose un problème. Quand il y a insuffisance des magistrats, beaucoup de dossiers sont en souffrance, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont en détention prolongée plutôt que d'être condamnés. Merci beaucoup. 081 890 63 15 pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à la libération conditionnelle des prisonniers, l'impact et les mesures qu'il faut pour faire face au problème de surpeuplement dans nos prisons. Votre point de vue est le bienvenu dans cette émission.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Maître Henri Omboloa, nous avons nos auditeurs qui sont intervenus. Au-delà des inquiétudes, il y a aussi des propositions, il y a des préoccupations par rapport à l'encadrement de ceux qui sont libérés d'une manière conditionnelle. Comment vont-ils vivre dans la société? Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir faim en prison pour montrer qu'ils se sont amendés? Après, ils se posent des problèmes de leur prise en charge. Ils se posent aussi un problème de la fréquence des libérations conditionnelles. Faudrait-il que ça soit sporadique selon la bonne volonté humanitaire, ou bien ça doit s'inscrire dans le système? Voilà autant de préoccupations de nos auditeurs. Vous les avez notées ensemble avec moi.
Oui, merci. Je salue ici toutes les interventions très importantes. Et il est important que nous puissions retenir quelque chose. L'ordonnance numéro 344 relatif au régime pénitentiaire organise beaucoup de ces questions qui ont été relevées. Notamment, par rapport à la prise en charge ou le mécanisme de suivi de la personne qui a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle. Lorsque on lit, je crois bien, les articles 100 et 101, 102 du régime pénitentiaire, on dit qu'on donne à ce libéré un permis, qu'on appelle le permis de libération conditionnelle, sous forme d'un livret. Et on mentionne quelques éléments importants. Et dès que la personne arrive au lieu de sa résidence, la personne est obligée de présenter ce permis au chef de la juridiction administrative. Ça peut être un administrateur du territoire, ça peut être
un bourgmestre.
Mais c'est vrai que dans la pratique, le suivi est difficile. Mais au moins, la loi a déjà organisé cela, quitte à voir comment cela peut se matérialiser sur le terrain. Ça, c'est une des premières préoccupations. Deuxièmement, par rapport à la mesure qui est considérée comme humanitaire. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Richard. C'est dans son domaine, il est médecin. Et lorsque nous prenons la constitution de notre pays, c'est l'article 18, le point 5, paragraphe 5, qui dit « Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. » Donc la Constitution nous dit que une personne qui est en détention, on ne lui prive pas de tous les droits possibles comme un être humain. Parce que les droits de l'homme sont inaliénables. Ce sont des droits qui sont attachés à toute personne, quelle que soit la condition ou les circonstances. Et toujours dans notre constitution, c'est l'article 61, il y a des conditions, il y a des droits qui sont verrouillés. Et on dit, dans n'importe quelle situation, il ne faut pas porter atteinte à ses droits. C'est par exemple l'intégrité physique ou la condition, la dignité même qui est due à toute personne. Donc la Constitution a réglementé, a déjà régi les choses. Mais ce que nous vivons dans la pratique, eh bien, c'est inquiétant. Parce que ici, je vais rappeler, il n'y a pas longtemps, je crois vers le mois de mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNIDH, a publié un rapport sur les décès dans les lieux de détention. C'est un rapport qui a été très important, et nous, au niveau de notre ONG, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, AUDEF, nous avons écrit, et nous avons aussi écrit même au ministre de la Justice et des droits humains, et parmi certaines des suggestions, c'est le cas de la libération conditionnelle. Donc c'est une mesure qui est bien tombée, mais ça entre dans tout un système. Il y a encore d'autres mesures plus importantes. Il y en a qui ont parlé de la construction d'autres prisons. C'est important. Il y en a qui ont parlé
de la fixation des magistrats pour permettre à ce que les dossiers soient vidés plus rapidement.
Oui, il y en a qui parlent, oui, magistrats, il y en a qui parlent de la réhabilitation des prisons. Nous avons certaines prisons que nous avons héritées de la colonisation. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces prisons? Il y a des prisons qui sont vraiment, qui étaient des restaurants, quand vous partez par exemple à Chicapa. La prison qui est à Chicapa, c'était pas destiné à une prison. Une maison, un local quelconque, et puis tout de suite c'est transformé en prison. Vous partez dans plusieurs milieux, n'est-ce pas, de la RDC, on n'a pas construit ou on n'a pas entretenu les prisons. Donc ça, c'est un élément aussi important. À propos de l'éducation, ça c'est encore plus préoccupant. Parce que la prison, ce n'est pas un milieu pour faire souffrir les gens. Ce n'est pas un milieu où les gens doivent entrer pour aller y mourir. Mais on dit que ce sont des centres de rééducation. Lorsque nous prenons la loi, le régime pénitentiaire, lorsque nous voyons la situation dans la pratique, dans la réalité, sur le terrain, mais c'est déplorable. Dans la loi, c'est l'article 23 du régime pénitentiaire qui parle de l'éducation. Qui est chargé de l'éducation? Est-ce que nous avons un personnel suffisant qui peut s'occuper de la rééducation dans nos centres pénitentiaires? C'est tout un problème. Et dans la pratique, comme je le disais tantôt, vous trouvez ce sont des prisonniers qui s'occupent de la surveillance et de l'éducation des autres. Des prisonniers qui sont parfois des plus grands brigands, des gens qui ont commis des crimes de guerre même, des gens qui ont commis des crimes graves, ce sont ceux-là qui commencent à s'occuper d'autres prisonniers. Et c'est pourquoi on dit, dans une certaine mesure, la prison chez nous est devenue comme une université du crime. Vous y entrez parce que vous aviez volé une banane, comme l'a dit un de nos amis ici, mais vous sortez de là, vous devenez déjà un très grand criminel. Donc c'est important, il est normal, il est important qu'on puisse revoir ce problème du traitement pénitentiaire. J'y ai même réservé une étude sur la question dans le cadre des études post-universitaires de droits fondamentaux. Eh bien, le traitement pénitentiaire dans notre pays, il doit être revisité. Revisiter ce traitement, revisiter même notre loi, notre législation, qui doit, n'est-ce pas, s'accommoder aux normes internationales aujourd'hui en la matière. Le budget. Le budget de l'État congolais par rapport aux prisons est insignifiant. Et dans ces conditions-là, eh bien, on doit comprendre que tout est foutu. Comme on a déploré plus d'une centaine de personnes qui sont mortes dans les mauvaises conditions, ou encore des gens qui entrent là-bas qui vont contracter des maladies, ça ce sont des choses qui sont déplorables.
Mais il y a le docteur Richard, tout comme Simon de Matadi, lui qui a estimé que ça ne soit pas une mesure sporadique qui est prise par les autorités et puis après c'est fini, on s'était. Y a-t-il des systèmes ailleurs où cette libération conditionnelle est instaurée d'une manière permanente, on dit à une certaine période où quand on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui ont, on peut dire, consommer l'un quart de leur peine, on peut déjà les libérer ou ça peut rester sporadique et spontané, parce que la dernière fois qu'on a parlé de la libération conditionnelle, on a même parlé d'un parole aux auditeurs, je me rappelle il y a 2 ans quand c'était décidé dans la province du Nord Kivu pour quelques prisonniers à l'approche de fêtes de fin d'année, je me rappelle bien. Est-ce qu'il faudrait-il que ce soit ainsi ou il faut que ce soit permanent?
Monsieur le journaliste, si il en est ainsi, libération conditionnelle 2 ans après, ça relève tout simplement du dysfonctionnement, n'est-ce pas, du service judiciaire et pénitentiaire. D'abord, je veux dire un mot par rapport à ceux qui ont parlé d'augmenter le nombre de magistrats pour s'occuper. Non. Quand nous parlons de la libération conditionnelle, il s'agit bien des personnes qui ont déjà été condamnées par une décision définitive, qui bénéficient de cette libération conditionnelle. Ce qu'on peut demander aux magistrats, c'est quoi? C'est de s'occuper des dossiers des personnes qui ne sont pas encore condamnées.
Parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de prisons, même beaucoup de détenus qui étaient condamnés.
Effectivement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en détention préventive très longue. Donc, il appartient aux magistrats de veiller à cela. Nous avons constaté, il faut le féliciter, un certain réflexe dans le chef des magistrats. Chaque fois qu'il a un dossier, il cherche à savoir la personne est en détention ou la personne n'est pas en détention. Effectivement, quand la personne est en détention, il faut toute célérité. Et aujourd'hui, en tant que défenseur des droits de l'homme, moi je peux dire, pour ceux qui travaillent dans le domaine, chaque magistrat, peut-être ils ne le savent pas, ils ont un dossier physique où on sait que tel magistrat a autant de détenus dans cette prison. Et s'il y a un examen ou il y a un contrôle à faire, parce qu'il y a des autorités qui sont appelées à faire le contrôle, peut-être ils ne le savent pas, ils ne le font pas, c'est pour cette raison que vous trouvez un magistrat à plusieurs personnes en détention et ces personnes qui dépassent 6 mois, 1 année, 2 ans. Donc ce sont des magistrats qu'il faut même sanctionner parce que c'est déjà une faute disciplinaire. Ces gens-là entrent dans des arrestations, dans des conditions de détention illégales, et c'est une faute disciplinaire pour le magistrat. Donc, il appartient à tout magistrat au parquet de veiller à cela. Mmh. Et nous disons que les magistrats, c'est vrai, lorsqu'ils ont des cas, ils doivent suivre de plus près. Et on doit aussi augmenter le nombre de magistrats pour gérer des cas là où il n'y a pas de magistrats.
Il y a un auditeur qui a posé la question de savoir quelle sera la étude, par exemple, du plaignant, quelqu'un qui m'a escroqué, bon, il a été condamné, après il est libéré, et puis tout ça. Il faudrait-il aussi des mécanismes d'harmonisation sociale quand un condamné est libéré d'une manière conditionnelle et il retrouve ce qu'ils ont, par exemple, ce qu'il a vu, ses plaignants dans le milieu habituel où il va vivre?
Merci, monsieur le journaliste. Là, ça me fait rire. Ça me fait rire pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un bénéficie de la libération conditionnelle ou lorsque quelqu'un est en détention, il n'y a pas tout de suite des solutions à la personne qui l'a fait arrêter. Et à ce niveau-là, c'est un problème important pour notre justice. Parce que notre justice penche beaucoup sur la répression. Quelqu'un vient se plaindre au parquet. Tout de suite, on arrête, on place la personne en détention. Mais on ne s'occupe pas de la victime. Donc, si nous privilégions une justice réparatrice, n'est-ce pas, une justice qui tient compte à la fois de celui qui s'est plaint, et à la fois du criminel et de la victime, là, c'est une bonne chose.
Voilà. Merci. On va revenir à vous, le temps d'écouter Aloïs qui est à Kananga, Patient est à Lubumbashi, Ismaël aussi à Lubumbashi. Je rappelle encore le numéro de contact pour intervenir en direct, 081 890 5315.
Parole aux auditeurs.
Aloïs, nous évoluons dans cet échange consacré à la libération conditionnelle des prisonniers et surtout les mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour accompagner ces mesures, pour faire face à ces problèmes de surpeuplement dans nos prisons. Quelle est votre contribution?
Oui, bonjour, monsieur Jean-Luc. Bonjour à l'invité et bonjour également à tous les auditeurs de la radio de la paix.
On vous écoute.
Merci de la parole, monsieur Pierrot. Cette mesure de libération conditionnelle des prisonniers congolais, je l'ai, à ma façon de voir, accueillie sous deux angles d'analyse. Ça veut dire la mesure est bonne d'un côté et mauvaise de l'autre. Pourquoi la mesure est bonne? Cette mesure est bonne au cas où nous la situons dans la lutte contre l'engorgement de nos maisons carcérales, parce que peut-être cela fait suite au fait que la situation des surpeuplements a été beaucoup décriée sur nos chaînes.
Mmh.
Mais de l'autre côté, on ne peut pas oublier le principe selon lequel, en voulant résoudre un problème, on en crée un autre ou autant d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux concrètement dire ceci. On a libéré, bien sûr, les prisonniers. Mais est-ce que la morale de ces prisonniers libérés a été réellement pensée par le gouvernement via l'autorité qui a pris cette mesure de libération conditionnelle? Parce que si cette mesure a été prise en respectant la mesure, donc, ou le principe de, le premier principe de prison selon lequel on doit rééduquer les prisonniers. Je sais que cette façon de faire-là serait aussi bonne.
Mmh.
Mais voilà pourquoi vous conviendrez avec moi que si cet aspect des choses n'est pas respecté, l'autorité qui a pris cette mesure a de nouveau exposé la population à de nouvelles infractions de délits communs. C'est pourquoi je l'ai dit au départ, qu'en voulant résoudre un problème, on risque d'en créer autant d'autres. Merci.
Merci beaucoup, Aloïs. D'ailleurs, vous avez suivi notre invité qui a dit pour résoudre cette question, c'est pourquoi le prisonnier qui est libéré reçoit un livret qui lui permette de se présenter auprès de l'autorité administrative. Comme ça, on sait les suivre, on sait les surveiller. Bon, qui, malheureusement, en pratique, c'est pas tellement le cas. Mais vous dites que c'est bien, ça peut permettre de résoudre cette question de surpeuplement. Mais d'un côté, il faut tous les mécanismes de suivi pour éviter que la libération ne puisse créer d'autres problèmes au niveau de la société et que les gens puissent récidiver et qu'ils se retrouvent encore en train de commettre les mêmes délits pour lesquels ils étaient condamnés. Merci. Aloïs Patient, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. C'est Patient Chitoko à Lubumbashi.
On vous écoute, Patient.
Oui, Monsieur Pierrot, moi je commence par regretter beaucoup du fait que nos prisonniers ont été toujours maltraités en prison. Ce sont ces gens-là vraiment qui ont raté vraiment moral. Parce que les prisons, moi je vous dirais que c'est vraiment un centre de rééducation. Mais en tout cas, quand les prisonniers sont en prison, ils sont toujours maltraités par les magistrats. Je vais soulever encore les cas de l'argent qu'on demande par les avocats afin de plaider la cause. Vraiment, ils demandent trop d'argent et vous trouverez que quand un prisonnier n'a pas beaucoup d'argent et quand il est pauvre, vraiment c'est un peu difficile de plaider sa cause. Alors, c'est en tout cas le cas que j'ai soulevé, M. Pierrot et l'ami.
Merci, Patient. Vous soulevez le problème de dossier qui traîne au niveau auprès des magistrats. Nous en avons discuté tout à l'heure avec l'invité qui a dit que c'est pas bon. Il faut arranger plus vite et s'occuper de quelqu'un. Et puis d'ailleurs, Patient, on vous a suivi. Oui, voilà, on vous a suivi. Vous insistez beaucoup sur les magistrats. Mais vous avez aussi évoqué ce qui n'a pas été dit depuis le début de cette émission par d'autres auditeurs. Les gens vont rester longtemps en prison, aussi longtemps qu'ils n'ont pas la capacité de payer, d'honorer les frais demandés par les avocats. Vous estimez que c'est trop exorbitant les honoraires des avocats, ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le moyen de pouvoir payer ces honoraires. Ils restent longtemps en prison. Merci beaucoup, Patient. Nous restons dans la même ville avec Ismaël. Bonjour, Ismaël.
Bonjour, Pierrot, le manger sur le réseau de la radio Capi.
On vous écoute, Ismaël.
Ah oui, vraiment, cette affaire est comme sur le gouvernement. Alors, juste un titre qu'il n'y a pas les cahiers de la provision, c'est tout un problème. Même à l'école, pour mieux enseigner, il a fallu à ce qu'il y ait aussi un cahier, soit le journal de classe pour que tout aille bien. Je me souviens que, Patient, tu viens d'intervenir à soulever un point, mais il n'a pas pu insister. Et la chose la plus chère en RDC, c'est la justice. Saisir un avocat pour plaider votre cause, vraiment, c'est très, très, très cher et très difficile. De ce fait, je vais en fait que soit les avocats, on va équilibrer avec l'État pour que, avant de plaider à quelqu'un, il doit payer fois autant d'argent. À juste titre qu'on n'a pas fixé les montants dont un client peut aller plaider chez un avocat, ça c'est très difficile. Maintenant, l'État devait encore prévoir pourquoi, parce qu'au nombre de magistrats, on peut négocier. Qu'est-ce que nous remarquons ici à Lubumbashi? Et celui qui est détenu peut faire 5 mois, 10 mois sans avoir été jugé. Qu'est-ce qui compte encore? Ce sont les rats sociaux. D'autres ont un parapluie parce qu'ils sont de tels ou tel candidat ou tel monsieur, ça va très mieux. Mais les pauvres là, je vois que c'est très difficile. Même l'homme GDM pour les droits humanitaires, vraiment, je vois qu'il ne fonctionne pas. Apparemment, je ne vois pas les actions. En définitive, qu'est-ce qu'on devait faire? La justice de la RDC ne devait pas se pencher sur les rangs sociaux. Les pauvres et les riches, c'est ça le problème. Parce que les pauvres, vous pouvez les voir faire 2 ans, 3 ans sans avoir été jugés. Mais un riche peut faire, en quelques jours seulement, il est libéré sans avoir même passé par le jugement. C'est ça ce que nous remarquons. Et la justice de la RDC a un penchant. C'est ça ce qui nous étonne vraiment. Si cette justice est équilibrée, et pourtant on dit que nous vivons dans un pays des droits où chacun a ses propres droits et ses devoirs. Même les centres de détention, les centres de rééducation, ça devient maintenant une peine. C'est pourtant quelqu'un qui entre dans une prison devait sortir avec une autre mentalité que celle qu'il était entré avec.
Merci,
Ismaël. Quand il sort, il sort avec une autre moralité, c'est-à-dire ça devient plus pire que jamais.
Merci beaucoup, Ismaël.
Donc, il faut prendre en charge réellement. Soit de multiplier des prisons, soit de multiplier aussi le nombre de magistrats.
Merci beaucoup, Ismaël. Vous avez souhaité que les actions qui sont posées à ce niveau soient s'inscrivent dans une prévision pour que ce soit ponctuel. Et vous évoquez le fait que l'accès à la justice coûte trop cher. Et pour les Congolais, il y a le trafic d'influence qui fait que ceux qui n'ont pas de moyens de se payer un avocat vont rester encore longtemps en prison, en détention, alors que ceux qui ont des moyens quittent plus vite la prison. Et vous souhaitez même qu'on puisse fixer les honoraires pour les avocats, et comme ça, ça va permettre à toute personne d'avoir accès à un avocat. Et vous souhaitez que la justice soit indépendante, qu'il n'y ait pas les trafics d'influence. Ça peut résoudre le problème de surpeuplement dans nos prisons. Merci beaucoup, Ismaël. Nous avons Malaouka qui nous appelle de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour, Malaouka.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez suivi les uns les autres la libération conditionnelle des quelques prisonniers, la problématique des surpeuplements. Quelle est votre proposition?
Oui, ma proposition était focalisée sur deux petites questions que je voulais poser à l'invité, messieurs les journalistes.
Oui, allez-y, posez, oui.
Ok, tout à l'heure, vous venez de vous dire que certains prisonniers ont bénéficié d'une liberté conditionnelle, tout simplement parce que ils sont poursuivis pour des petites infractions, là, des crimes de droit commun, tels que l'escroquerie, tels que les vols simples et homicides involontaires. Nous trouvons que cela est bon. Mais actuellement, vous devez aussi tenir compte des prisonniers qui sont restés en prison. Est-ce qu'ils sont en train de suivre une éducation en prison? J'ai dit non. Seulement, ils ne suivent pas l'éducation. Au contraire, ils sont en train de se détériorer davantage compte tenu des conditions carcérales dans lesquelles ils sont en train de vivre. Ici, par exemple, à Bukavu, nous avons une association dénommée La Résurrection qui se donne jour pour jour à aller former des prisonniers dans les prisons de la province en métier tels que électronique, informatique, mécanique, automobile. Je pense que ça c'est une idée, c'est un travail à féliciter. Maintenant ma question est de savoir, à part cette association-là, La Résurrection, il n'y a pas une autre école qui s'occupe des prisonniers en République démocratique du Congo? C'est ça ma première question à l'invité. La deuxième question est celle-ci. Actuellement, les prisons sont surpeuplées. À présent, les prisons sont surpeuplées. Et que la procédure pénale ordinaire montre clairement les délais de détention au niveau des OPJ, au niveau du magistrat et au niveau du juge. Au niveau des OPJ, les présumés ne peuvent faire que 48 heures à l'amicaux. Au niveau de l'officier du ministère public, les présumés ne peuvent faire que 5 jours en détention avant que son dossier soit fixé au tribunal. Au niveau judiciaire ou au niveau du juge, les dossiers ne peuvent dépasser 3 mois parce que en matière de viol, par exemple, après 3 mois, inutile encore de faire les enquêtes car on ne trouvera pas de traces si on n'était pas prudent avant les 3 mois. Maintenant, les prisonniers qui sont surpeuplés dans nos prisons en République démocratique du Congo ne sont pas arrêtés parce qu'ils ont été attrapés par des preuves, mais tout simplement parce qu'ils ont été soupçonnés d'avoir commis une infraction. Mmh. Et les magistrats, qu'est-ce qu'ils font? Une fois si vous êtes jeté en prison, c'est fini. Il ne vous appelle plus, il va partir en mutation, l'autre va venir, il va vous trouver toujours en prison, l'autre viendra, il va toujours vous trouver en prison. Pendant que vous êtes en prison, vous êtes en train de passer des années sans être jugé. Est-ce que il n'y a pas une règle ou une loi pouvant sanctionner les magistrats qui se comportent de telle manière? Parce que mettre quelqu'un en prison sans pour autant les juger, est-ce que cela vraiment...
Merci. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Malawuka. Merci.
Je voudrais savoir maintenant quelles sont les sanctions. Je n'ai pas fini. Quelles sont les sanctions?
Allez-y rapidement, il y a beaucoup d'auditeurs sur...
qui mettent les gens en prison sans pour autant...
Voilà, c'est la question que vous aviez déjà posée, ingénieur Malawuka, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur le standard. Au-delà de toutes les considérations, toutes les explications, les remarques, vous avez posé des questions à notre invité par rapport d'abord aux ONG qui s'occupent des prisonniers, à l'instar de la résurrection à Bukavu, qui forment les prisonniers aux différents métiers. Et puis vous demandez si qu'est-ce que la loi dit par rapport aux magistrats, ceux qui gardent autant les dossiers sans pour autant respecter les durée légale de détention. Merci beaucoup, ingénieur Malawuka. Nous avons à Kananga Mavé qui nous appelle. Bonjour, monsieur.
Radio Capi,
non, on vous écoute rapidement, Mavé.
Merci, eh bien, je serai trop bref. La libération conditionnelle des prisonniers qui effective aujourd'hui, dans notamment dans la ville-province de Kinshasa, qui sera bientôt d'application dans les provinces, je ne sais pas, permettant à tenir le milieu de détention n'est pas mauvaise, à mon avis. Mais la seule question à ce niveau que je voudrais poser à notre invité, est-ce que cette opération qu'on a effectuée est-elle faite avec tous les préalables, c'est-à-dire avec toutes les conditions possibles, pouvant permettre à la population civile et paisible de connaître encore des conséquences dont les mêmes personnes qui ont été détenues dans des prisons, aujourd'hui libérées, revenir dans les mêmes problèmes qu'on a peut-être connus dans le passé. Est-ce que les conditions sont telles, prises en considération ou soient prises en compte pour ne pas revenir?
Oui, voilà. Je crois, Mavé, vous êtes... oui, Mavé, je crois que vous êtes revenu sur la question qui a été posée tout à l'heure par notre ami Dekanangakor, hein, où l'invité a pu expliquer qu'il y a des mesures qui sont prévues par la loi, mais malheureusement, en pratique, c'est pas ça. Mais vous voulez savoir s'il y a de mesures d'accompagnement pour que la population ne soit plus victime des actes d'essai qui ont été libérés. Merci, vous avez été très nombreux pour cette deuxième vague d'auditeurs. Hein, Ramazan, et vous êtes à Calémie, vous gardez la ligne, l'invité pour d'abord réagir aux propos des auditeurs, mais aussi à quelques questions qui ont été posées dans cette émission.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Maître Henri Omblois, vous avez suivi les uns et les autres. Au-delà de ce que nous avions déjà évoqué, hein, et les réponses qui ont été données, il y a quelques questions qui se sont ajoutées. C'est par rapport à ce que dit la loi pour les magistrats, pour les OPJ, ceux-là qui ne respectent pas la durée légale des détentions. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à leur sanction? Mais il y a ces problèmes d'accès. Les auditeurs considèrent que l'accès à la justice est tellement cher dans notre pays que cela fait que les pauvres restent longtemps en détention parce qu'ils n'ont pas de moyens de se payer les services d'un avocat. Voilà autant de préoccupations et des questions directes qui vous ont été posées.
Oui, merci. Je m'en vais répondre au cas par cas. Et je vois M. Aloïs qui parle qui considère donc la libération conditionnelle, elle est bonne, elle est aussi mauvaise. Mais là où il dit que elle est mauvaise, moi je veux lui dire que il y a l'article 102 du régime pénitentiaire qui veut que la mise en liberté peut toujours, en liberté, donc en libération conditionnelle, peut toujours être révoquée. Ici, c'est un conseil, même à tous ceux-là qui ont bénéficié de cette mesure exceptionnelle du ministère de la Justice. Vous avez aujourd'hui la libération conditionnelle. Ça ne signifie pas qu'on vous dit, vous êtes licencié, allez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous êtes tenu, n'est-ce pas, à la bonne moralité. Vous êtes tenu de respecter donc toutes les lois du pays. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes encore passible de poursuites. Et quand je dis libération conditionnelle, nous avons dit que la condition, vous sortez, mais vous ne commettez pas d'autres infractions. Lorsque vous commettez d'autres infractions, et la peine que vous n'avez pas purgée parce qu'on a interrompu, vous allez encore la récupérer. Voilà le problème de la libération conditionnelle. Donc, à ce niveau, parce que l'article 102 dit que celui qui commet encore une infraction, qui va encore troubler l'ordre public, on va encore l'arrêter et il retourne à la prison. Ça, c'est pour apaiser tous nos frères qui sont en train de nous suivre.
Oui.
Et pour enchaîner, il y a quelqu'un d'autre qui a dit il y a une certaine insécurité. Donc, pour toute la population qui est en train de suivre, vous savez que tel a bénéficié d'une libération conditionnelle. Lorsque vous êtes victime, il vient pour vous dire, voilà, vous avez cru que j'allais mourir à la prison, mais voici, il y en a aujourd'hui, même des Koulouna, qui à la prison, il sort, il va saluer un bourgmestre, il dit non, mais voici. Donc, si vous trouvez quelqu'un dans ce sens-là, vous allez l'accuser chez le procureur de la République. Et la loi donne au procureur de la République le pouvoir de l'arrêter immédiatement. En attendant que le ministre puisse prendre une dernière décision pour qu'on les ramène à la prison. Là, donc, c'est la sécurité. La loi a prévu, mais il nous appartient de pratiquer. Ne soyons pas seulement plaintifs, mais si nous trouvons qu'il y a des cas qui nécessitent une intervention, je vous informe, le procureur de la République du lieu où la personne est en train de vivre après sa libération conditionnelle, il a le pouvoir de l'arrêter à nouveau. Avec le monsieur Patient Titoko, maltraitance par les magistrats, je ne sais pas. Maltraitance à quel niveau par les magistrats?
Il voulait parler juste peut-être, vous revenez, enfin, vous restez longtemps. Et il avait parlé des magistrats, demain il est muté, et puis il est permuté, il va ailleurs, et quelqu'un va encore rester longtemps comme ça en train d'attendre. Mais c'est plutôt la préoccupation par rapport aux frais d'accès même à la justice, les problèmes des honoraires des avocats, il pense que c'est difficile.
Oui. Par rapport aux magistrats, disons une chose, c'est que la détention préventive, elle est aussi réglementée. Et le corps du ministère public, les magistrats du parquet, ils sont un et indivisibles. Celui-ci peut partir et l'autre doit suivre le dossier. Donc, mais dans la pratique, c'est vrai, il y a des longues détentions qui sont inutiles et qui sont gratuites. Et là, nous disons et nous répétons que un magistrat qui a fait arrêter et qui ne s'occupe pas de ce dossier-là, il commet une faute disciplinaire. Si vous ne savez pas, nous vous l'informons. C'est la loi sur le statut des magistrats qui le prévoit à l'article 47. Vous êtes dans des cas où une personne est arrêtée depuis une année et il n'est pas présenté devant le juge. Le magistrat vous fait aller et venir. Allez-y devant le chef du ressort ou le chef de la juridiction. Portez plainte. En matière disciplinaire, vous verrez ce qui pourra se faire.
Et là, il faut enchaîner directement avec la question qui a été posée par notre ami Général Malaouka de Bukavu, qui vous demandait que prévoit la loi pour ces magistrats-là, le type de sanctions, on sait quoi, au juste, est-ce qu'on peut avoir une idée?
Oui, les sanctions, elles sont nombreuses. Les sanctions, c'est par exemple une suspension de 3 mois, et la sanction peut aller même jusqu'à la révocation. Ça, c'est une des voies. Sur le plan administratif, sur le plan disciplinaire, ça c'est l'administration. Mais ça peut aussi se faire sur le plan pénal. Lorsque on est arrêté, on trouve que le magistrat le fait de mauvaise foi, eh bien c'est une arrestation arbitraire. On peut tenter de faire une action en matière pénale pour arrestation arbitraire. Ça peut toujours aboutir parce que le statut de magistrat parle aussi de l'arrestation arbitraire qui est à considérer comme une faute disciplinaire. Donc je dis, sur le plan administratif avec l'action disciplinaire et aussi sur le plan pénal, ça peut aussi se faire, ça peut se concevoir.
Mais rapidement, il y a l'auditeur qui a évoqué évoqué le problème de l'encadrement des prisonniers avec d'autres ONG qui s'en occupent, la formation. On sait que de ce côté-là, il y a un grand déficit par rapport au pouvoir public.
Oui, déficit au pouvoir public, et lui, il insiste par rapport au déficit par rapport au pouvoir public, parce que je l'ai dit auparavant, il n'y a pas un personnel suffisant et qualifié pour former, n'est-ce pas, les prisonniers. Mm-hmm. Ça, c'est évident. Mais de l'autre côté, des ONG, c'est vrai, nous félicitons l'action des résurrections qui s'occupent de la formation.
À Bukavu,
c'est une bonne chose, mais ça c'est à Bukavu, même ici à Kinshasa, même à travers le pays, il y a d'autres ONG qui s'occupent, n'est-ce pas, de cette formation-là. Mm-hmm. Et il faut féliciter, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas les seuls, il y en a encore d'autres qui le font. Mm-hmm. Et par rapport à la justice qui est difficile pour le pauvre, il y a ce que nous appelons l'assistance gratuite. Vous avez des cas, vous avez des problèmes, vous pouvez recourir au bureau de consultation gratuite devant les barreaux. Et chaque barreau, donc au niveau de chaque province, il y a un barreau qui a un bureau de consultation gratuite. Vous pouvez y recourir. Vous dites que vous n'avez pas de moyens, vous êtes un indigent, vous le prouvez par une attestation d'indigence, et donc le barreau peut attribuer ce dossier à un avocat qui va s'en occuper. Mais là aussi, nous demandons au gouvernement de savoir que c'est dans ses attributions de faire, n'est-ce pas, administrer une bonne justice équitable à tous les citoyens. Donc, un peu de subvention par rapport au bureau de consultation gratuite pour s'occuper réellement des personnes.
On va écouter rapidement Ramazani qui nous appelle de Calémie, parce qu'après on aura les flash informations des radios, puis on pourra revenir pour la deuxième partie, la conclusion. Ramazani, vous nous appelez de Calémie au Katanga. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi. Moi, c'est Saïd Ramazani. Je vous appelle, bien sûr, depuis la ville de Calémie.
C'est ce que je venais
vous
de
savez,
dire.
Oui. Vous savez, nous sommes dans un pays en reconstruction avec la révolution de la modernité introduite par notre président de la République. Moi, je vois qu'il n'y a pas question de réhabiliter nos prisons, mais plutôt que de les reconstruire, une fois de plus.
Mmh. Voilà, merci beaucoup.
Je pense qu'il faut vraiment que ces prisonniers qui ont été relâchés puissent aussi, que le gouverneur puisse avoir des suivis. S'ils arrivent encore à répéter les mêmes bêtises, qu'on les punisse double.
Merci beaucoup. Ramazani, vous pensez qu'il ne faut pas réhabiliter? Le grand problème aujourd'hui, c'est la construction des prisons. Il faut plutôt construire des prisons parce qu'on a beaucoup de problèmes. Merci beaucoup pour votre point de vue. Et ceux qui ont bénéficié de la libération conditionnelle, si jamais ils récidivaient, qu'ils soient punis sévèrement. On va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie. Il est temps pour nous de lire ce message des Franck qui nous écrit, plutôt de Yves Cambi qui nous écrit des Bastogne en Belgique, qui pense que l'état des prisons RDC, les conditions d'incarcération, les droits des détenus, la manière de traiter leurs dossiers, tout cela doit être intégralement repensé. Mais le message important, on va les terminer juste après le flash information de Radio Capi qui intervient tout de suite. Merci pour ces flash informations de Radio Capi. La deuxième partie des paroles aux auditeurs, on va revenir sur le message de Yves Cambi qui nous a écrit des Bastogne en Belgique. Il disait ceci: l'état de nos prisons en RDC, les conditions d'incarcération, les droits des détenus, la manière de traiter leurs dossiers judiciaires, tout comme cette décision de libération conditionnée, doivent être intégralement repensées pour plus de justice pour tous. Tant qu'il y aura quelquefois des chaînes de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, tant que le pouvoir judiciaire ne serait pas vraiment séparé de certaines interférences politiciennes, selon les circonstances, il y aura toujours des déficits déplorables. Des réformes intégrales en ces domaines doivent être faites de manière à permettre à tout le monde d'avoir accès à ses droits fondamentaux afin d'être traité de la même manière devant la loi. Merci beaucoup à Yves Cambi pour ce message. Avant d'écouter Rachel qui est à Issirou, il y avait une question pour notre invité. C'est par rapport à... Vous avez fait appel au certificat d'indigence qu'il faudrait que quelqu'un puisse présenter pour être assisté gratuitement. Où va-t-il avoir ce certificat d'indigence?
Oui, le certificat d'indigence est obtenu auprès du service des affaires sociales ou même dans les bureaux des communes. Quand vous y allez, il y a toujours un bureau qui s'occupe du social. Ce bureau-là accorde ce certificat d'indigence. Et je disais que les bureaux de consultation gratuite sont là et on ne peut pas se plaindre que les avocats sont très chers. Et celui qui est indigent, il peut y recourir. Et même celui qui a des moyens, les avocats, ils ne sont pas là pour seulement s'enrichir, ils sont là aussi pour un service à rendre à la société, ce qui fait que même par rapport aux honoraires, il y a des barèmes qui fixent les minimums et les maximums, et tout s'entend entre l'avocat et son client. Donc il ne faut pas vraiment avoir trop peur, nous vous encourageons de consulter les avocats.
On écoute Rachel qui est à Issirou en province orientale. Rachel, vous êtes avec nous, bonjour.
Hello, bonjour.
On vous écoute, on tend vers la fin de cette émission. Votre proposition et votre préoccupation.
Oui, moi j'ai quelques préoccupations, mais c'est bon. Je sais pas vraiment ce que j'ai remarqué dans notre pays. Donc la façon dont nos prisonniers vivent, c'est vraiment déplorable. Et je sais pas si quand on arrête quelqu'un, c'est pour le faire. Donc quand on amène quelqu'un, c'est pour dire qu'il aille mourir ou quoi, je sais pas. Parce que nous voyons souvent, quand on amène des gens à prison, c'est vraiment rare qu'on puisse revoir leur dossier. Au moins qu'ils soient dans une famille costaud, comme on le dit, dans ce cas-là, on peut commencer à revoir vos dossiers. Mais on amène directement quelqu'un à prison sans pourtant revoir ce dossier. Et la personne reste à prison, on ne cherche même pas à revoir ces dossiers pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et là, maintenant, je voulais dire, quand on amène des gens à prison, on n'a même pas de vivre en prison. Il y a maintenant des églises nouvelles, il y a maintenant des églises qui s'engagent, donc qui s'engagent pour dire que non, tel jour, on va les préparer pour les prisonniers. Et ça, vraiment, j'encourage vraiment des églises qui font ça vraiment. C'est vraiment une bonne chose, qui n'arrête pas de faire ça. Et maintenant, je voulais dire, à faisant ça, en amenant les prisonniers en prison, ça pour qu'ils voient comment ils vont vivre là-bas. Si c'est pour les tuer, dans ce cas, si on arrête quelqu'un en prison, qu'on arrête que pour l'amener en prison, il sera mieux de l'exécuter sur place que de l'amener en prison pour dire qu'il aille mourir là-bas. On ne s'occupe pas de lui. Et nous voyons maintenant des gens, des prisonniers qui sont déjà qui étaient peut-être condamnés une année ou deux ans. Et ce sont ces gens-là qui meurent avant. Et les gens qui sont condamnés à mort là-bas, ces gens-là, c'est difficile que ces gens-là meurent. Mais les gens qui sont condamnés une année ou deux ans, ce sont ces gens-là qui meurent avant. C'est ce que je voulais vraiment dire à nos gouvernements, d'essayer un peu de revoir les conditions de prisonniers vraiment. Ils sont aussi, déjà comme nous.
Merci. Ça, merci beaucoup, Rachel. Vous êtes à Issirou. Il faudrait revoir, comme l'a dit notre ami Kambi, qui nous a écrit des bâtons en Belgique, il faut revoir le système. Autant mieux, vous souhaitez même qu'on condamne quelqu'un une fois pour toutes et qu'il soit exécuté plutôt qu'il est laissé à l'emprise pour mourir à petit feu. Vous vous rendez compte que les gens qui sont soit condamnés à 2-3 ans de prison, ce sont eux qui sont plus exposés à la détérioration de la santé jusqu'à mourir, même avant ceux qui sont condamnés à perpétuité. Merci beaucoup. Et vous avez interpellé le pouvoir public. Merci beaucoup, Rachel. Nous revenons à vous, Maître Henri Omblo, avant peut-être d'écouter le dernier auditeur. On a suivi les uns et les autres, mais parlant par exemple de vos structure, parce qu'il y a le problème des structures de défense des droits de l'homme, la vôtre par exemple. Quelles sont les actions que vous menez en ce qui concerne les prisons, le surpeuplement, les conditions carcérales, en bref, au niveau de vos structures par exemple, ce que vous faites?
À notre niveau, nous nous occupons de quelques cas seulement de personnes qui sont poursuivies et qui n'ont pas de conseil. Et là, vous comprenez que c'est une charge très difficile parce que les indigents, on peut le déplorer, et on a bien raison, parce que la justice qui se passe dans les lieux de prison, c'est une justice lapidaire. On peut poser une, deux questions, trois questions à un individu, c'est fini, le procès est terminé, et on attend un jugement qui doit tomber. Là, il faut déplorer cela. Et nous faisons aussi un monitoring pour voir les conditions les conditions même de détention, comment ça se passe. Mais beaucoup plus, nous sommes en train de travailler sur des propositions pour la réforme du système pénitentiaire. Et là, il faut aujourd'hui
convenir que nous avons besoin d'une nouvelle loi sur la réforme pénitentiaire. Il y a eu un projet qui a été même débattu au niveau du Sénat.
Oui.
Et je crois que il faudrait aller bien de l'avant par rapport à cette situation. Il y a tout récemment le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a publié le rapport sur les détentions. Nous avions aussi écrit et nous avons aussi transmis notre communiqué au ministère de la Justice en demandant aussi que soit appliquée aussi, n'est-ce pas, cette libération conditionnelle.
Mais quand vous regardez votre partenaire, le ministère de la Justice, vous qui travaillez dans ces structures de défense des droits de l'homme, quel est le niveau de compréhension, des collaborations? Est-ce que vous êtes assez écouté, suivi? Y a-t-il un cadre permanent des discussions? On sait qu'à un certain moment, le ministre Luzolo Bambi avait mis en place ces cadres des concertations, des discussions permanentes avec les ONG des droits de l'homme. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça vous permettra aussi de conclure cette émission.
Oui, merci. Laissez-moi un temps pour féliciter Madame la ministre de la Justice et des Droits humains pour cette mesure par rapport à la libération conditionnelle. Mais il y a encore beaucoup à faire et c'est là que nous demandons que l'on puisse redynamiser l'entité de liaison qui a été créée. C'est un cadre de concertation entre les ONG et le pouvoir public pour voir dans quelle mesure on peut améliorer les droits de l'homme dans notre milieu. Il en va de l'honneur, n'est-ce pas, du crédit du pays, il en va aussi de la dignité de tout Congolais. Aujourd'hui, tel est au pouvoir, un autre jour, il ne le sera pas. Mais lorsque nous avons des structures, nous avons des mécanismes, nous avons des lois qui permettent de protéger la dignité de la personne humaine, alors cela bénéficie à tout le monde. Nous saluons aussi l'actuel gardien de prison, M. Kabisa Eminankos, le colonel, parce que nous espérons que lui aussi, il peut apporter un changement au sein de cette prison. Donc, le travail est assez ardu, assez grand, mais il faut beaucoup de courage, il faut aussi une collaboration. Dans la chaîne, n'est-ce pas, du système pénitentiaire, il y a un contrôle qui est nécessaire, et ce contrôle est parfois négligé, peut-être méconnu, peut-être même ignoré. Nous voyons, dans la loi, on parle du gardien de prison, nous parlons de l'inspecteur chargé de la direction des établissements pénitentiaires, nous parlons du gouverneur de province. Chaque gouverneur de province, il a un pouvoir pour contrôler les prisons. Le chef de la circonscription, ça peut être un bourgmestre, dans les communes, dans les districts, ils ont un pouvoir pour contrôler aussi les prisons. Il y a aussi le médecin qui est affecté à la prison pour faire le suivi, voir si les gens sont, si la prison est propre, si les conditions de santé, les conditions de nourriture sont bonnes. Donc, c'est toute une chaîne.
Mais par rapport à cette question que je venais de vous poser tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut redynamiser la structure des liaisons, je crois.
L'entité des liaisons.
Oui. Ce qui veut dire, depuis que cette entité a été installée jusqu'en ce moment, le niveau de collaboration, quels sont les résultats quand même par rapport à cet échange entre les pouvoirs publics et les ONG?
Mais nous pouvons dire que concrètement, aujourd'hui, l'entité des liaisons ne fonctionne pas. Et on peut dire aussi qu'aujourd'hui, depuis que Madame ministre Mumba est là, peut-être qu'officiellement, elle a reçu une délégation des défenseurs de droits de l'homme une seule fois. Là, nous disons que ça pose un petit problème parce que dans son travail, il y a des ONG qui sont là pour l'accompagner, il y a des ONG qui sont là pour poser des actes en vue de donner effet à sa mission comme ministre de la Justice et des Droits humains. Donc, les défenseurs des droits de l'homme ne sont là que pour appuyer ce qui est de la tâche normale du ministre.
Voilà, et on a suivi les uns et les autres. On a encore, je crois bien, 30 secondes, si vous pouvez placer un mot de conclusion dans 30 secondes pour terminer cette émission.
Un mot de conclusion, nous, dans AUDEF, Alliance pour l'Université des droits fondamentaux, nous disons tous les droits de l'homme à la portée de tous. Et pour que ces droits de l'homme soient à la portée de tous, il faudrait que nous puissions nous tenir les mains dans les mains. Cela peut avancer pour notre propre intérêt, pour notre crédit et pour notre dignité.
Merci beaucoup, Maître Henri Ombolois. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG de défense des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté notre invitation et commenté ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi, à qui nous disons également merci. Vous avez été très nombreux à travers le pays à proposer des pistes et des solutions pour faire face à ces problèmes de surpeuplement dans les prisons à travers les pays. Nous vous disons tous merci pour votre attachement à Radio Capi.
Allô? 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 Mais il ne répond pas?
On se retrouve demain jeudi à 11h30, heure de Kinshasa. Des cas d'insécurité sont enregistrés dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes à travers le pays. Insécurité causée soit par des hommes armés non nommément identifiés, soit par des bandes de jeunes délinquants armés d'armes blanches. Que proposez-vous pour faire face à cette insécurité dans votre milieu? On se retrouve demain, comme je venais de le dire, à 11h30, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Titim Poutou, Nadine Foula, Willem Lungamba, la réalisation, Nicole Ngaka, à la supervision. Parole aux auditeurs, c'est aussi la rediffusion à 20h30, heure de Kinshasa en FM, mais d'une manière permanente sur www.radiocapi.net. Au revoir.